Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est devenu une habitude depuis quelques semaines, les dimanches d'élection, le grand rendez-vous est remplacé par une édition spéciale d'Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand bien sûr. Bonjour Franck.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Vous savez, je ne suis pas habitué moi à me lever de bon matin le dimanche, et bien grâce à ces élections, je me rends compte que j'ai tort. C'est très agréable, surtout quand il fait très beau comme aujourd'hui. Alors nous n'allons pas parler de politique évidemment ce matin, mais nous allons tout de même consacrer cette émission au Palais Bourbon pour vous raconter quand est né cet incroyable édifice, pour vous raconter qui l'a fait construire et comment il a finalement pris cet aspect un petit peu sévère qu'on lui connaît aujourd'hui. Nous parlerons aussi de son petit frère, l'hôtel de Lasset, qui, vous savez, est aujourd'hui la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que tout ça est en vérité le fruit d'une belle histoire d'amour.
Au cœur de l'histoire.
Je commence, je vous l'ai dit, par une histoire d'amour. Alors, c'est pas un amour de jeunesse, non. Disons plutôt une passion de la maturité, puisque lorsque ces deux-là se rencontrent, elle a déjà 37 ans, ce qui au début du XVIIIe siècle n'est plus vraiment jeune, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, qui quand même est sensiblement plus jeune, a tout de même 30 ans. Alors, elle, c'est une princesse. Un petit peu princesse de la main gauche tout de même, puisqu'elle est une des enfants que Louis XIV a eu en double adultère avec Madame de Montespan. C'est pas beau ça. Je vous rappelle que ces enfants ont été légitimés par le Parlement de Paris. Ils sont devenus les enfants officiels. Ce sont des princes et princesses de la cour de France. Celle dont je vais vous parler s'appelait à sa naissance Mademoiselle de Nantes. Elle avait pour prénom Louise, Louise comme son père Louis XIV, Françoise comme sa mère, Louise Françoise. Elle a épousé un cousin du roi de la branche Condé, qu'on appelle à la cour le duc de Bourbon. Elle est donc connue dans le public comme la duchesse de Bourbon. Et lui, me direz-vous, lui est d'un milieu plus modeste. Il s'appelle Léon, il est colonel d'infanterie, Léon de Lasset. Il est le fils du marquis Armand de Lasset. Il porte lui-même le titre de comte. Sa mère était la fille d'un apothicaire de la grande mademoiselle. Vous voyez qu'on est d'emblée dans des destinées, dans des lignes, je devrais dire, qui ne sont pas tout à fait ce qu'il y a de plus classique. Alors on voit souvent ces Lasset, père et fils, à la petite cour des Condés. Vous savez qu'à cette époque, il y a un peu des cours dans la cour. Il y a la cour des Condés, la cour des Orléans, etc. On les voit souvent auprès des Condés, les Lasset. Léon a plu tout de suite à Louise Françoise, qui, je le précise, est alors une jeune veuve. Son mari, le duc de Bourbon, est mort pendant le terrible hiver de 1709. Vous savez, cet hiver extraordinairement froid. On dit que le vin à Versailles gelait dans les carafes. Quant à Léon, lui est marié à sa propre tante. Mais décidément, ça a nécessité une dispense spéciale du pape, bien entendu. C'est un mariage de pure façade, autant vous le dire, qui a été négocié pour des raisons d'héritage, de succession. En épousant sa tante, il récupérait toute une partie de l'avoir familial. Le jeune comte plaît aux dames et surtout à l'une d'entre elles, une très grande dame, donc la fille naturelle et légitimée du roi, la duchesse douairière de Bourbon. Évidemment, c'est une liaison discrète. On peut même dire que c'est une liaison cachée, du moins tant que Louis XIV est encore en vie. Vous savez, du temps du grand roi et de son épouse morganatique, Madame de Maintenon, il fait pas très bon entretenir des liaisons, même si, après tout, la jeune princesse est veuve. Bien entendu, le très vieux monarque n'ignore rien de la vie amoureuse de ses enfants. Ses services de renseignement sont bien faits, mais il ferme les yeux, il fait comme si de rien n'était. Et puis, à sa mort, en 1715, alors là, tout change. C'est comme une chape de plomb qui vole en éclats. La France respire, elle redécouvre la liberté, la joie de vivre, les plaisirs de ce nouveau régime qu'on va appeler la Régence. Que la fête commence, comme dit le titre du beau film de Bertrand Tavernier sur cette période de la Régence et sur ce personnage extraordinaire qui était le régent Philippe d'Orléans. Alors, pour Louise Françoise et Léon, la fête commence aussi, et elle commence vraiment. Désormais, ils vont pouvoir afficher leur liaison. Et pour cette très riche veuve, très amoureuse, le moment paraît venu de se faire plaisir et de s'offrir une maison bien à elle, en même temps qu'une autre maison toute voisine pour son amant. Vous avez compris que ce seront tout naturellement le Palais Bourbon et l'hôtel de Lacé.
Extrait du Rigaudon de Delalande. Allez, on repart tout de suite au cœur de l'histoire, l'histoire de la duchesse de Bourbon.
Alors oui, Linda, je ne vais pas m'apesantir maintenant sur les acquisitions de terrain, sur les choix d'architecture, sur les détails de construction. Je vais laisser tout à l'heure au grand spécialiste de ces questions, Alexandre Gady, le soin de faire la lumière là-dessus. Laissez-moi plutôt suivre le cours de notre joli comte galant. Vous savez, c'est dans l'esprit de cette régence pleine de Rigaudon, comme vous disiez, d'Arlequin, de Champagne. Et de berceaux fleuris. On s'amuse sous la Régence à Paris. Il faut dire qu'on s'est bien ennuyé pendant toutes les dernières années du règne de Louis XIV. Alors, juste au passage, permettez-moi de vous dire, nous y reviendrons tout à l'heure bien sûr, que la construction de ces deux somptueuses résidences doit beaucoup à la spéculation qui, dans ces troubles années de la Régence, s'empare de la bonne société et s'en empare à l'instigation de ce banquier aventurier venu d'Écosse qu'on appelait John Law. Lui aussi, nous reparlerons de lui tout à l'heure. Alors les deux amants ont décidé la chose suivante. La princesse cède au comte un terrain qui dépend de son futur palais, le terrain qui jouxte l'avenue des Invalides. Seulement, Léon exige que ce terrain reste dans la dépendance du palais, ce qui fait que plus tard, les enfants de Louise Françoise pourront réclamer l'hôtel de Lacé. Ça, c'est une clause qui va avoir des conséquences très importantes pour la suite, vous allez voir. « Faisons ainsi, a dit la princesse dans un baiser, puisque vous le voulez. » Et voici dès lors l'histoire cryptée, le petit conte à clé qui se met à courir dans les salons de Paris comme c'était à l'époque la mode. La princesse Roxane, a écrit un auteur anonyme, avait été gouvernée jusqu'à sa mort par Kodabindi. Kodabindi, c'est le fameux comte de Lacé. Seigneur persan de beaucoup d'esprit, fin courtisan, intrigant, sachant profiter de la faveur et qui en avait habilement tiré parti pour se faire une fortune considérable. Roxane ne décidait rien que par ses avis. Elle avait tant de confiance en lui qu'elle lui abandonna la direction d'un magnifique palais qu'elle faisait bâtir. Tout joignant, Kodabindi en fit élever un petit mais superbe, mais mieux entendu, mieux ordonné, plus commode, plus recherché, préférable en un mot au jugement des connaisseurs par le goût et les vraies beautés qui y régnaient. On assure qu'on voyait dans ce palais des tableaux originaux d'un très grand prix dont il n'y avait que des copies dans celui de Roxane, à qui cependant, dit-on, les originaux appartenaient. C'est pas gentil hein, quand même. On peut dire que les ragots ont été l'apanage de Paris depuis bien longtemps. Et, conclut le petit comte, les deux palais se communiquaient par une porte secrète et une galerie souterraine qui dérobait Kodabindi au regard des curieux. Le palais Bourbon, pour autant, ne s'est pas construit en un jour. Ça a même été une construction longue, compliquée, difficile. En 1728 seulement, il dévoile enfin aux Parisiens curieux et médisants les splendeurs dignes de la fille impérieuse du bâtisseur de Versailles. Je laisse à Jacques Bernot, qui est avec nous dans ce studio et qui a publié une belle biographie de cette duchesse de Bourbon, le soin de nous le faire visiter. L'aspect extérieur du palais Bourbon, écrit-il, apparaît à présent grandiose. On est en 1728. Sur la rue de l'université, une large porte ouvre à deux vantaux avec guichet, puis une colonnade formant demi-lune, couverte d'une terrasse de plomb. Ces deux pavillons sont affectés aux Suisses et officiers de la maison, ainsi qu'aux femmes de chambre. La façade est d'ordre dorique et ionique. De chaque côté de la porte se trouvent deux groupes de colonnes surmontées d'une balustrade de pierre avec corps de pilastres. Au-dessus de la porte, du côté de la rue, un cartouche de sculpture avec supports, solives et couronnes porte les armes des Bourbons, ah, tout de même, soutenu par deux anges enveloppés de nuages. Mais c'est le long de la Seine que le coup d'œil est le plus remarquable, avec une terrasse qui longe le fleuve sur 72 toises. Cette terrasse fera beaucoup parler d'elle. Quant à la distribution intérieure, quant au luxe des appartements, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 11h, Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'histoire de la duchesse de Bourbon.
Voici le portrait que l'incorrigible Soulavie place dans la bouche du maréchal de Richelieu en décrivant cette duchesse de Bourbon tellement impossible. « Fière, écrit-il, hautaine même, absolue, aimant les brouilleries, l'éclat, l'appareil, le cérémonial, les bâtiments, elle venait à la cour et n'y était pas trop aimée. » Nous allons essayer maintenant d'en savoir davantage sur cette princesse bâtarde et illégitimée, la fille préférée de Louis XIV, dit-on. Et nous allons le faire en compagnie de son biographe, Jacques Bernaud. Bonjour Jacques Bernaud, merci Bonjour. D'être des nôtres. J'ai aussi demandé à notre ami Alexandre Gady de venir en ce dimanche matin. Personne, disons-le, ne connaît mieux que lui les hôtels particuliers parisiens. Et je suis certain qu'il va nous donner sur ces deux hôtels, le Palais Bourbon et l'hôtel de Lassay, un certain nombre d'éléments méconnus. Bonjour à tous les deux donc.
Bonjour.
Alors je suis passé peut-être un petit peu vite sur l'enfance de celle qu'on appelait à la cour Mademoiselle de Nantes. N'oublions pas tout de même qu'à sa naissance, elle est le fruit d'un double adultère, puisque le roi est bien sûr marié à la reine Marie-Thérèse. Quant à Madame de Montespan, il y a aussi un monsieur de Montespan.
Exactement. Alors Louise Françoise, puisque c'était ses prénoms, est née en 1673 et elle est née dans un drôle d'endroit pour une princesse, c'est-à-dire qu'elle est née à Tournai, alors que Louis XIV faisait la guerre. Mmh. Mais comme vous savez, la cour suivait les troupes et profitait de ce divertissement pour faire du tourisme.
Donc, c'est Louis XIV qui le premier, profitons-en pour le dire, puisque vous dites ça, c'est Louis XIV qui le premier entraîne avec lui les dames de la cour.
Hein. Exactement.
Il commence d'ailleurs assez tôt dans le règne et ça devient presque une tradition, effectivement. On promène ces dames, alors pas vraiment sur le front, disons-le, mais en tout
on
cas
les
dans les zones de guerre.
À une douzaine de kilomètres,
voilà,
mais
ça.
Elles peuvent entendre le bruit de la canonnade.
Le roulement du canon.
Et donc Madame de Montespan, qui est sa maîtresse à l'époque, suit la cour naturellement et elle est extrêmement enceinte, si bien qu'elle donne naissance à un enfant à Tournai, qui est une petite fille, mais on s'empresse bien entendu de ramener l'enfant très très vite à Paris et on l'installe clandestinement, puisqu'il ne faut surtout pas que le marquis de Montespan sache, ni que la reine sache. On installe la petite fille avec ses frères aînés.
Ça devait quand même être difficile, en tout cas pour la reine, de ne pas savoir, mais elle ne voulait
elle
pas savoir.
Elle fermait les yeux.
Oui, voilà, elle fermait les yeux.
Et on ramène cette petite fille rue de Vaugirard, dans un endroit qui existe à peu près encore, c'est le pensionnat pour jeunes étudiants chrétiens du 104 Vaugirard,
enfin, oui,
très transformé depuis.
Alors nous avons eu l'occasion ici de raconter la vie de Madame de Maintenon et à plusieurs reprises j'ai dit quel rôle elle avait joué dans l'éducation justement des enfants que Louis XIV a pu avoir avec Madame de Montespan. Il faut dire qu'il y en a un certain nombre hein, quand même. Vous êtes aussi le biographe du comte de Toulouse. Vous,
exactement,
d'ailleurs.
Je viens de sortir une biographie du comte de Toulouse aux éditions Lanor.
Oui.
Alors Madame de Maintenon ne va pas être la gouvernante de tous les enfants, elle n'est la gouvernante que des aînés.
C'est ça.
Ce sera Madame de Montchevreuil, une de ses amies, qui sera la gouvernante des cadets. Mais c'est une gouvernante assez pointilleuse et les enfants ne l'aimeront pas beaucoup. À dire vrai, elle a une grande préférence pour l'aîné, le duc du Maine, qui est un peu boiteuse.
Oui, qui est un peu contrefait.
Elle l'appelle mon mignon, mais elle n'aime pas beaucoup les autres. Et notamment Mademoiselle de Nantes, c'est une opposante née et toute petite fille, une petite peste.
Quel caractère, un caractère revêche, elle est incroyable.
Pas revêche,
mais plutôt impérieux, dirons-nous.
Impérieuse et en même temps très acidulée, c'est-à-dire qu'elle voit les petits côtés des gens, et elle n'a pas sa langue dans sa poche et immédiatement elle les allume au passage aux éclats de rire de tout le monde.
On disait que sa mère, Madame de Montespan, savait immédiatement déceler le défaut de la cuirasse. Il semblerait bien que sa fille naturelle ait hérité de cette
elle
disposition.
Elle a hérité ce qu'on appelait l'esprit des Mortemart,
voilà,
à l'époque.
Et donc un esprit corrosif s'il en fut.
Alors c'est une petite... Alors, au bout de 2 ans, elle va être reconnue par le roi en 1680, si mon souvenir est bon. Et le roi va donc l'installer avec ses autres enfants au château de Clagny, au nord de Versailles, chez Madame de Montespan. Et c'est là qu'elle va vivre toute son enfance, assez mal élevée, pour être franc, On lui apprend les rudiments de la religion, la danse, monter à cheval, mais cela étant dit, pour le reste, elle saura peu de choses.
Alors j'ai parlé tout à l'heure du duc de Bourbon, et je l'ai présenté comme l'épouse du duc de Bourbon. Il faut quand même souligner le caractère un peu extraordinaire d'un mariage comme celui-là. C'est-à-dire que c'est une enfant naturelle, certes légitimée officiellement par un édit ou en parlement, mais c'est une enfant naturelle du roi qui épouse l'un des premiers princes du sang tout de même.
C'est vrai. Et alors, ce mariage est à la fois épouvantable, parce que c'est un mariage forcé. On marie la petite fille à 12 ans, elle n'est même pas nubile, et c'est un ordre du roi. Il y a en réalité un problème politique à résoudre. Les Condé, qui ont hérité l'immense fortune des Montmorency dans l'Oise, ils possèdent Chantilly et d'autres, et bien d'autres propriétés. Les Condé font figure de principal opposant depuis toujours à la couronne, notamment au moment de la Fronde, et Louis XIV veut mettre fin à cette opposition. Il décide donc de marier en quelque sorte de force sa fille naturelle à l'héritier des Condé, qui est le jeune duc de Bourbon, qui a, je crois, 15 ou 16 ans à l'époque. Alors évidemment, c'est un scandale. Pourquoi est-ce que c'est un scandale? Parce que le duc de Bourbon est un prince du sang, son sang est par définition pur, alors que Mademoiselle de Nantes est bâtarde.
Eh oui, donc ça c'est une mésalliance, qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise au roi qui considérait au contraire faire à ses cousins Condé quasiment faire une fleur.
Je crois que c'était plus compliqué que ça. Oui. Il leur faisait une fleur en tout cas financière en dotant colossalement Mademoiselle de Nantes, je crois plus d'un million de livres, en donnant le gouvernement de Bourgogne au duc de Bourbon, en lui assurant la survivance de la surintendance de la maison du roi à la mort de son père et de son grand-père. Mais cela étant dit, c'était une terrible mésalliance, car à l'époque la bâtardise, c'était quelque chose de honteux.
Et une bâtardise qui peut être au moins autant que l'hérédité Mortemart explique ce caractère impérieux, ce caractère altier, difficile, on disait à l'époque difficultueux de madame, de mademoiselle de Nantes, donc de la duchesse de Bourbon.
C'est très bien vu, elle navigue toujours entre orgueil et humiliation.
C'est ça.
Elle ne se remettra jamais d'être une bâtarde, et au fond elle se voudra toujours plus princesse du sang.
Alors je m'en veux un peu de l'avoir présentée quasiment comme trop leste. Comment en est-elle venue à cette... Oui, n'est-ce pas ? Comment en est-elle venue à cette... Elle était olé olé, comme disait la défunte comtesse de Paris,
c'est
me disiez-vous hors micro.
Absolument, c'est ce que m'avait dit madame lorsque je lui avais dédicacé mon livre.
Comment est-ce qu'elle en est venue à cette liaison si privilégiée avec Lasset ?
Alors, il ne faut pas aller trop vite. Ça. Elle a eu cette liaison alors qu'elle avait 30 ans passé.
Et voilà.
Et elle a été mariée à 12 ans. Et alors, il faut ajouter que le duc de Bourbon, tout prince du sang qu'il fut, était en fait quelqu'un d'assez peu ragoûtant. Il était tout petit, il avait une verrue sur le nez, il était affreux, il n'était pas très courageux à la guerre, et en plus, c'était un pervers, car certaines névroses ou étaient entrées dans la famille de Condé avec le mariage du grand Condé avec Claire Clémence de Maillé, une Richelieu, et chez les Richelieu, on avait la tête faible.
Elle avait un petit grain.
Et donc, ce pauvre duc de Bourbon était un peu sadomaso et fréquentait à Paris... Bon, je m'arrête parce que c'est une émission de grande écoute.
Mais vous m'avez, trop matinale.
Voilà.
Avant la
exactement.
Messe.
Donc, Mademoiselle de Nantes va avoir ça à gérer, si j'ose dire. Et l'une de ses qualités, c'est qu'elle va amadouer le duc de Bourbon, qui lui fera 9 enfants. Enfin, on a dit qu'il lui avait fait 9 enfants. Moi, je ne suis pas sûr que tous étaient de lui. Mais comme il ne les a pas contestés, ne soyons pas plus méchants que le duc de Bourbon.
En tout cas, avec Lasset, c'est le grand amour.
Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Elle va donc avoir ses 9 enfants avec le duc de Bourbon et il va mourir en 1710. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la duchesse de Bourbon va commencer une espèce de seconde vie, cette fois de
femme. C'est le démon de midi ?
Non, je dirais plutôt que c'est la découverte de la liberté. Et c'est quelque chose de très moderne chez cette femme. Elle va découvrir et elle va mener une vie de femme, j'allais dire, du XXe siècle, en plein XVIIe siècle. Elle va décider de faire sa vie à son idée, de vivre là où elle veut, avec qui elle veut. Et donc, elle a cette rencontre avec Léon de Lasset, qui est plus jeune qu'elle,
oui,
mais qui, à la différence de son mari, est mieux bâti, qui est plus intelligent et qui a beaucoup de goût et qui, en plus, est très avisé en affaires.
Qui avec, je recite la phrase de tout à l'heure, qui avec un visage de singe était très bien fait.
Voilà, ça c'est Saint-Simon qui dit ça. Et donc, elle va tomber réellement amoureuse. Et cet amour va durer jusqu'à sa mort à elle, donc 33 ans, ce qui n'est pas mal.
Mais oui. Et ce qui va donner naissance à cette double construction. Je vois Alexandre Gady qui piaffe de nous raconter les origines de ces deux hôtels. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
En ce dimanche électoral, nous parlons de l'Assemblée nationale, mais nous en parlons d'une façon qui ne doit pas être politique. Je rassure tout de suite les membres du CSA qui pourraient nous écouter. Nous parlons donc du Palais Bourbon dans ce qu'il a de plus patrimonial et historique, à travers la figure de celle qui, au départ, l'a fait construire, la Duchesse de Bourbon. À ne pas confondre avec l'autre duchesse de Bourbon, Bathilde d'Orléans, dont on dira un mot tout à l'heure parce qu'elle a été aussi concernée par tout cet ensemble. Alors, il faut peut-être, Alexandre Gady, resituer le contexte dans lequel vont s'élever ces deux hôtels jumeaux, sachant qu'il y a le gros et le petit, le palais Bourbon et puis le petit hôtel de la Sée. On est en pleine régence, là encore.
Et oui, et ce qui est très intéressant, c'est que Paris a eu un grand coup de fouet, que tous les historiens ont souligné, et qui est cette période de la régence où le roi physiquement est revenu habiter à Paris, dans le palais des Tuileries, donc l'enfant roi, Louis XV.
Le petit Louis XV,
il est tout jeune. Il a 5 ans à la mort de son arrière-grand-père. Et le régent au palais royal, qui fait sa vie lui aussi, très moderne dans un autre genre, et qui fait qu'il y a une énorme spéculation. On connaît tous l'affaire, évidemment, qui se termine mal de la banqueroute.
La banqueroute de l'eau, oui.
Mais il faut
imaginer tout de suite
que...
pour nos auditeurs les plus sourcilleux qu'on doit prononcer l'as, mais on a pris l'habitude de dire l'eau, parce que ça s'écrit L-A-W. C'était donc ce banquier écossais, qui était plutôt une sorte d'aventurier, qui entraîne le régent et ses conseillers dans une aventure financière un peu comme celle qu'on peut connaître par ces temps de crise, du reste. Je ferme la parenthèse. Et donc,
cette extraordinaire spéculation, elle a des intérêts avec la Compagnie des Indes, avec le commerce, mais aussi avec l'architecture parisienne. Alors ça nous vaut à Paris encore aujourd'hui deux quartiers qui sont vraiment, on dirait impulsés, cet horrible français, cet anglo-français, le Faubourg Saint-Honoré d'une part, parce que c'est tout à côté des Tuileries au fond, et habiter rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est être à deux pas du pouvoir. Et de l'autre côté, comme un point d'équilibre assez fascinant finalement, qui est resté encore aujourd'hui, le quartier du Faubourg Saint-Germain, qui a commencé de se développer en réalité depuis déjà plusieurs décennies, mais qui a connu une double accélération. Le pont royal qui permet enfin d'aller directement, sans faire le tour complet par l'île de la Cité. Et puis en même temps, évidemment, la proximité du sud, la rue de Bellechasse, ce sont les Bellechasses vers Versailles, vers Saint-Germain, etc. Donc, pourquoi pas venir là? Et d'ailleurs, des petits malins...
Est-ce qu'on peut parler d'une zone de spéculation?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a des petits malins comme l'architecte Germain Boffrand, qui est un des grands et beaux architectes de cette époque, qui lui avait tout de suite repéré que bien avant la mort de Louis XIV, ça serait intéressant de venir là, et qui fait construire l'actuelle ambassade d'Allemagne, par exemple, ou l'hôtel de Gournay, qui est cette merveilleuse maison à Couroval, qui est au début de la rue Saint-Dominique, quand on est sur le pli du boulevard Saint-Germain.
On est dans d'anciennes zones assez campagnardes, qu'on est en train de lotir, tout simplement, mais de lotir de la façon la plus aristocratique, et donc rentable. Possible.
Absolument. Et il y a d'ailleurs dans cette population des architectes, des notaires et un personnage intéressant qui est président au Grand Conseil, qui s'appelle le président Duret, François Duret. Et alors lui, il achète des terrains. Il travaille, alors je le cite à dessein, vous allez voir pourquoi, parce qu'il travaille avec un architecte qui s'appelle L'Assurance, qui sera le premier consulté pour faire le Palais Bourbon et l'Hôtel de la Sée. Et alors, ils font ensemble leurs petites affaires. Lui achète le terrain, il fournit l'argent, l'architecte fait d'autres avances, fait les plans, et on trouve un pigeon, on lui vend sur plan, exactement comme on ferait aujourd'hui. Et puis souvent, ben, malheureusement, le pigeon, il n'a pas assez d'argent, il revend immédiatement.
Il ne va pas jusqu'au bout.
Ou il ne va pas jusqu'au bout, ou il change d'architecte. Et ça nous vaut des hôtels tout à fait extraordinaires, comme l'Hôtel de la Guerre, donc l'Hôtel de Brienne, qui a été construit par Duret, ou l'Hôtel Pozzo di Borgo, qui vient d'être vendu, et qui sont des hôtels de cet architecte qui s'appelait Pierre Caïto Assurance et qui était un personnage très sollicité parce qu'il avait une ingéniosité, beaucoup d'idées pour les plans, pour la distribution des maisons.
Rassurez-nous, la duchesse de Bourbon, lorsqu'elle décide de se faire bâtir à Paris cette maison, parce qu'elle n'a jamais eu vraiment de maison à elle, même si le roi Louis XV lui concède la survivance à Versailles d'un logement, mais elle n'a jamais eu de demeure personnelle, cette duchesse. Là, elle se fait plaisir, disons-le.
Exactement,
vous nous parliez d'une deuxième vie tout à l'heure, Jacques Bernot.
Elle se fait plaisir, car au fond, elle n'a jamais été chez elle. Elle était la femme du duc de Bourbon, elle était la châtelaine de Chantilly, mais elle ne l'a été qu'un an parce que c'était son beau-père qui possédait Chantilly avant. À Paris, elle logeait à l'emplacement actuel du théâtre de l'Odéon, lorsqu'elle venait à Paris, puisqu'il y avait là l'hôtel de Condé, qui a été démoli seulement au milieu du XVIIIe siècle. Donc elle va enfin être chez elle.
Et à quoi ressemble cet hôtel qu'elle se fait construire? Parce qu'évidemment, quand on traverse aujourd'hui le pont de la Concorde et qu'on a cette grande colonnade néoclassique très empire, on a du mal à imaginer ce qu'a pu être l'hôtel particulier de la duchesse de Bourbon. Ça ressemble à quoi?
Alors,
quelle en est la taille déjà, il faut le dire.
Si vous voulez, on peut pour les auditeurs déconstruire, si vous voulez, voit aujourd'hui. Il faut toujours penser que la création de la place Louis XV, notre place de la Concorde, qui est un chef-d'œuvre absolu de l'architecture et de l'urbanisme français. C'est tard dans le siècle, c'est à partir de 1758-64. Mais surtout, ça a pris à revers et ça a annulé en réalité l'extraordinaire poésie qu'avait le site de l'hôtel de Bourbon. Puisque quand Louis XV a décidé qu'il n'y aurait qu'une rue entre les palais de la Concorde, qui est notre rue royale, il a automatiquement fabriqué l'appel qui était le pont avec la perspective. Et d'une certaine manière, on a condamné à terme, même si c'est Napoléon qui a fait cette grande façade un peu ennuyeuse de Poyet.
On ne pouvait pas avoir un hôtel particulier, quelque chose de plaisant, en quelque sorte, dans le prolongement direct de cette monumentale perspective.
Et d'autant moins que le bâtiment était tout petit, je vais y venir, et surtout, il était planté de biais.
Et oui.
Parce qu'en fait, colonnade, si on connaît aujourd'hui le Palais Bourbon, c'est une façade aveugle qui tourne le dos au bâtiment et qui n'est là que pour rattraper la perspective.
Rectifier.
Parce que la Seine fait un coude à cet endroit, pour nos amis qui ne sont pas parisiens, qui nous écoutent. Il y a un gros coude du fleuve. Et évidemment, le palais Bourbon était aligné comme l'hôtel de Lacé sur ce biais. Et du coup, évidemment, on avait un bâtiment de travers. Alors, la caractéristique, pour donner image, c'est le Grand Trianon. Parce qu'il y a une extraordinaire modernité au Grand Trianon voulu par le roi, ce bâtiment à rez-de-chaussée.
C'est le roi qui a eu l'idée d'évider cette partie centrale liant les deux corps de logis et de faire à la place un grand péristyle antique.
Voilà.
Déjà.
Alors, ça, c'est le coup de génie. Et c'est surtout le roi qui, pendant le chantier, qui est pourtant très rapide du Grand Trianon, fait enlever la toiture qu'on a parce qu'il trouve que ça, comme il dit, ça donne un air de grosse maison. Le roi a ce mot extraordinaire qui nous donne quand même une idée de son goût. Et donc, elle a suivi ce modèle, c'est-à-dire que c'est un bâtiment à l'italienne, une toiture quasi invisible, avec une grande balustrade ornée de trophées de groupes sculptés, et surtout de grandes baies en plein cintre qui donnent sur un jardin. Et donc, en fait, entre cour et jardin, quand même, sauf que le jardin est au fond. Petit, mais le jardin,
donne
c'est
sur
Paris,
la Seine.
C'est la Seine,
voilà.
C'est la vue sur les Tuileries et Montmartre au fond. Donc en fait, c'est exactement ce qui se produira avec l'hôtel de Salm, notre palais de la Légion d'honneur. Ce sont des jardins miniaturisés, mais pis parce que la ville est à eux. La vision sur la ville était extraordinaire.
Ils voient même le Louvre, presque.
Finalement, le jardin est conçu comme une sorte d'antichambre à une perspective urbaine.
Absolument, et en même temps, ce qui est très intéressant au Palais Bourbon, c'est qu'on est à la limite du modèle italien qui serait le modèle de la villa, où au fond le jardin est quasiment entièrement en train d'entourer la maison, alors que l'hôtel parisien est quand même souvent entre des murs mitoyens, c'est plus cadré si vous voulez. Et c'est intéressant de savoir que, sur recommandation de Lacé, c'est d'abord un Italien qui est sollicité pour les plans. Et alors il y a une espèce de série noire, il meurt, alors on appelle l'assurance meurt, et en fait entre 1722 et 1724, tout ça cafouille un peu. Et ce qui est encore aujourd'hui rend très difficile l'histoire architecturale des débuts, c'est que la part de chacun de ces créateurs n'est pas absolument fixée.
Et des chevauchements.
Voilà, il manque des dessins.
Il y avait des cabinets en fait, d'architectes où on suivait les affaires.
Et Léon de Lacé est là tout près, et lui, il fait...
Je voudrais ajouter à ce qu'Alexandre vient de dire, qui est intéressant, si on va au Palais Bourbon aujourd'hui, il est très difficile de voir les bâtiments de Mademoiselle de Nantes, mais si on va dans la cour quand même, les bâtiments qui sont au fond de la cour, en enlevant cette espèce de temple grec, de petit temple grec qui est au centre, les ailes, c'est presque ce qu'avait voulu Mademoiselle de Nantes.
Là, il en reste quelque chose.
Il y a quelques morceaux.
Il faut dire qu'après une visite très approfondie de l'intérieur, il y a quelques années, je n'ai vu au fond de correspondant qu'un mur en hémicycle assez beau, qui est à côté de la salle de presse.
Tout a changé.
Et qui est le mur de la galerie de la façade sur jardin.
Finalement, on appelle ça le palais Bourbon, mais il n'en reste pas grand-chose du palais initial, disons-le. En tout cas, extérieurement.
Un souvenir et au fond, pour tous ceux qui aiment l'histoire de France si compliquée, un joli clin d'œil au fait que, évidemment, ce palais Bourbon abrite
les institutions de la République. C'est vrai que c'est pas mal dans le genre. Quand on sait que l'autre duchesse de Bourbon a occupé le palais de l'Élysée, tout ça. Mais après tout, la République s'est installée dans les anciens hôtels et les anciens palais de la monarchie. Ça,
mais ce qui est quand même amusant, c'est que le palais Bourbon, c'est une maison qui a été construite par amour.
Voilà,
qu'il y en ait beaucoup dans Paris, beaucoup d'autres, je ne sais pas.
Le ministère de l'Agriculture. Mademoiselle de Villeroy, c'était la maîtresse d'un banquier. Enfin, c'est pas elle, en l'occurrence, c'est l'hôtel de Villeroy après, mais c'est un hôtel fait pour une cocotte. Et aussi la mairie du 9e, faite par amour, par un fermier général, pour Mademoiselle Gogo, je ne me lasse pas de citer ce nom, qui était danseuse à l'opéra.
Et donc là, Mademoiselle de Nantes, enfin la duchesse
là,
de
Bourbon, l'inverse, en quelque sorte,
va avoir l'idée de construire un palais pour elle, et à côté, une belle maison pour son amant, le comte de Lassay. Elle lui cède des terrains, ceux qui vont jusque aux Invalides, pratiquement. Elle est généreuse avec lui. Et il va construire une maison dont moi, je trouve qu'elle était encore plus belle que le palais Bourbon.
Ah, c'est ravissant.
Alors,
hein, le petit
pour
hôtel
avoir
de
une
Lassay
idée de ce qu'était l'hôtel de Lassay de l'époque, lui aussi, c'était un, je parle sous le contrôle d'Alexandre Gady, c'était un rez-de-chaussée. Il a été surélevé, Alexandre le racontera sûrement. Et à mon avis, c'était encore plus parfait comme architecture que le palais Bourbon.
C'était presque une folie, en quelque sorte.
Et exactement.
Oui, oui. Petite chose.
Petite chose qui est un plan massé, c'est un rectangle au sol, alors que quand même, dans le palais Bourbon, il y a cette idée, c'est une princesse, hein,
ouais,
même si elle est bâtarde.
Oui.
Il y a une cour en U, avec voilà, deux retours à droite et à gauche, il y a un centre.
Portail, voilà. Monumental.
Lassay, c'est qu'une espèce de joujou posé comme ça sur le terrain. Et encore aujourd'hui, quand on passe, bon, alors on est évidemment derrière cette grille sur le quai, mais on voit quand même que c'était posé sur ce jardin suspendu. C'est magique.
Et alors là, vous avez une remarque très drôle, c'est que un beau jour vers 1730, le nonce apostolique à Paris, un cardinal italien, passe en carrosse sur le cours de la Reine. Il arrive à Paris, il ne connaît pas Paris. Et il dit avec son accent italien, « Comme c'est amusant, ces deux maisons jumelles, on pourrait presque mettre l'une sur l'autre. » Et tout le monde éclate de rire,
il
bien
ne
sûr.
Croyait pas si bien dire.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Labouré de Cardenio à l'instant sur Europe 1 et on retrouve tout de suite Franck Ferrand qui raconte ce matin l'histoire du palais Bourbon.
Ravissant, sublime, idéal, ce palais Bourbon tel qu'il était au tout début du XVIIIe siècle, au moment de sa construction dans les années 1720-1730, a beaucoup changé, au point, nous disait Alexandre Gady il y a quelques minutes, qu'il est devenu assez méconnaissable derrière les transformations qu'on lui a fait subir, dans le cadre d'ailleurs de l'évolution de toute cette zone de Paris, hein, bien entendu, avec cette perspective qui naît à l'église de la Madeleine et qui enfile la rue Royale, la place anciennement Louis XV devenue place de la Concorde, et puis le pont de la Concorde jusqu'à ce qui est aujourd'hui la nationale. À côté, ce petit hôtel de Lassay, qui lui aussi a subi des transformations très importantes. Alors, c'est toute cette alchimie-là, c'est toute cette modification, j'allais dire progressive, non, finalement, assez brutale, que j'aimerais que nous abordions maintenant. Le palais Bourbon, d'abord subit le choc de la Révolution, disons-le.
Voilà, alors il y a les phénomènes classiques, immigration, saisie, pillage,
il appartenait
etc.
toujours au Condé, il faut le dire.
Alors, pour l'histoire va un tout petit peu moins vite.
Oui, mais la radio va vite, elle. C'est vrai.
la duchesse de Bourbon meurt en 1743, et à sa mort, c'est son petit-fils, le prince de Condé, qui hérite du palais Bourbon. Et le prince de Condé va aussi racheter aux héritiers du comte de Lassay l'hôtel de Lassay, si bien qu'ils vont être réunis dès avant la Révolution. Il les modernise et en fait vraiment une merveille. On voit passer dans les ventes publiques des meubles qui ont été au palais Bourbon autrefois, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et à la Révolution, le 15 juillet 1789, le lendemain de la prise de la Bastille, le prince de Condé émigre.
En même temps que le comte d'Artois, etc.
Voilà, et Madame de Polignac. Ils ne peuvent pas supporter le changement. Il émigre, il ne reviendra qu'en 1814. Pendant ce temps-là, la Révolution sera passée, qui aura décrété biens nationaux aussi bien le palais Bourbon que Lassay, et qui aura affecté au corps législatif, sous le consulat et l'empire, le palais Bourbon.
Alors c'est curieux, pourquoi cette affectation aux députés d'emblée de cette maison-là et pas une autre ?
Alors je crois d'abord à cause de la position géographique. On reste quand même dans l'épicentre de la Révolution. Il y a le jardin des Tuileries, la place de la Révolution avec les horribles...
L'ancien manège où était donc la
voilà,
convention.
Voilà, l'horrible place avec la guillotinade qu'on connaît. Et puis aussi parce que c'est un bâtiment énorme. Alors on l'a saisi, bien national. Donc c'est une très grande parcelle qui est isolée sur les quatre côtés. Que dans la phase qu'a décrit tout à l'heure notre ami, il y a eu beaucoup de travaux. Beaucoup de travaux de bâtiments qui étaient en fait la maison de Condé. Il y avait énormément d'officiers, etc. Donc tout ça, ça fait des bureaux tout près, si j'ose dire. Hein. Et on voit encore aujourd'hui que c'est un îlot complet. Hein. Et donc on décide sous le directoire d'installer les 500, qui va devenir ensuite la chambre basse quand Napoléon créera le Sénat. Cette salle est confiée à Jacques-Pierre Gisors, qui n'est pas aujourd'hui un architecte très connu.
Alors, ça ressemblait à quoi la salle des députés de l'époque?
Alors, c'est un hémicycle.
Déjà.
Alors, on a évidé le cœur du centre du bâtiment, en fait, et on a installé dedans un hémicycle. Il y a beaucoup moins de députés, donc c'est un hémicycle qui serait beaucoup plus petit que l'actuel, dans un style très néoclassique directoire consulat, avec des couleurs faux marbre, des verts, des ors. Ça devait être assez joli, quand même. Hein. Mm-hmm. Et vous savez qu'il en reste ce fameux bureau, là, du président, hein, avec ses bronzes à la Thomire ou à la Gouttière, donc des choses assez raffinées.
La splendeur directoire du cœur même de la tribune, c'est l'héritage direct de cet hémicycle de l'époque.
Hein. Absolument. Et il faut dire que, vraisemblablement, à part cette modification qui provoque l'obturation des fenêtres, des surélévations assez difficiles visuellement, tout le reste va subsister. En fait, ce sont surtout les travaux du 19e siècle qui sont des travaux faits dans un contexte, alors là pour le coup, complètement pacifié, si j'ose dire. La restauration, pour Louis XVIII, qui est le vrai père du bicamérisme en France et du système tel que nous le pratiquons
aujourd'hui. Le bicamérisme,
aujourd'hui,
c'est-à-dire deux chambres, une chambre haute, une chambre basse,
voilà, puisque
qui a longtemps été une chambre des pairs qui deviendra un Sénat, et puis l'autre qui est la chambre des députés qu'on appelle aujourd'hui Assemblée nationale.
Voilà, puisque c'est vraiment la restauration qui a mis en place ce système d'une manière qui fonctionne. Alors sous l'Empire, c'est quand même une fiction, évidemment.
Tout ça est un théâtre de parlement, oui.
Voilà, tandis que sous Louis
XVIII... Ou un parlement de théâtre, comme on voudra.
Il y a une vraie ambition, et du coup, le bâtiment pose problème, parce qu'il a fallu le rendre, ensuite il a fallu le louer, il a fallu le racheter, bon, bref, il y a des allées et venues. Et il y a surtout la volonté de montrer que la monarchie a changé, il y a la charte, et que donc, c'est un palais de l'État. Alors on sait peu, par exemple, que c'est la monarchie restaurée qui va faire ce temple des lois avec la cour ici, mais on sait encore moins que la statue de la loi qui fait aujourd'hui face au Parlement, oui, devait être une statue de Louis XVIII en habit de sacre, donnant la charte aux parlementaires. Et
oui,
donc pour lui, c'est une façon de retourner la perspective napoléonienne qui est sur la scène et de ramener la vérité du bicamérisme dans le camp de la monarchie. Hein. Il y a un vrai programme politique, là. Hein.
C'est Napoléon lui-même qui avait eu l'idée de cette espèce de temple.
C'est lui qui l'a commandé. Oui, il l'a commandé en 1807 à Poyet, dans une très intéressante confrontation avec la Madeleine, qui à l'époque n'est pas la Madeleine, mais le temple de la gloire. Et donc le pouvoir de Napoléon est entre les soldats qui sont morts pour la France, et donc surtout pour lui en l'occurrence, et le temple des lois. Mais vous savez ce que disait Napoléon, hein, mettez 20 personnes dans une pièce et vous avez 20 avis différents, les bavards comme il les appelait. Donc temple des lois, temple de la gloire, c'est le système qui doit faire une espèce de chaîne d'énergie entre les deux points.
Alors ce grand hémicycle que nous connaissons, qu'on voit tous les soirs à la télévision.
Alors ce sont les travaux de Jules de Joly, les grands travaux de Louis-Philippe et de Napoléon III, et qui ont doté le palais actuel de deux espaces. Alors personnellement, si j'ose, on a dit qu'on ne faisait pas de politique, salle n'est pas très spectaculairement belle à mon sens.
Non, enfin, c'est pas de la politique ça. Hein,
ça c'est pas de la politique. Mais en revanche, le grand chef-d'œuvre de ces années-là, c'est la bibliothèque.
Ah, oui.
La bibliothèque qui va être construite sur un ancien court-jardin le long de la rue de Bourgogne.
Extraordinaire.
Un vaisseau magnifique, voûté avec des coupoles, confié à Delacroix, qui va réaliser là un ensemble peut-être plus
un
développé
peu sombre,
même encore qu'au Sénat, mais vraiment un ensemble qui aujourd'hui donne au Palais Bourbon, je trouve, une dimension patrimoniale absolument remarquable.
Finalement, une des plus belles bibliothèques de Paris qui pourtant en compte un certain nombre.
Une des plus belles bibliothèques du monde. Alors, pour revenir sur les avatars politiques du Palais Bourbon, donc à la Révolution bien nationale, affecté donc aux 500 corps législatifs sous l'Empire, et à la Restauration en 1814, tel un fantôme, le prince de Comté, qui est gâteux, revient quand même en France. Et on lui rend le palais Bourbon. Il va reprendre le palais Bourbon, mais il était inexploitable. Donc il le reloue immédiatement à la couronne pour qu'il reste le palais de la Chambre des députés. Et il va s'installer à Lassay. Il récupère l'hôtel de Lassay, il y meurt au bout de 4 ans, et c'est son fils, le duc de Bourbon, celui qui n'osera jamais porter le titre de prince de Condé, parce qu'il est le dernier, son fils, le duc d'Enghien, ayant été fusillé, qui va passer ses dernières années-là avec sa maîtresse, la baronne de Feuchères, qui l'installe dans un endroit que j'adore aujourd'hui, qui est l'hôtel, le petit hôtel, où les questeurs reçoivent encore aujourd'hui, qui est un bâtiment restauration absolument merveilleux, dans un état de conservation.
Dans son jus, quasiment.
Ah, il est magnifique, très très bien. Très bien meublé, magnifique. Et donc, on imagine bien la vie du dernier duc de Bourbon à Lassay.
Alors, nous avons dit, lorsque nous avons traité ici l'énigme de Saint-Leu, que l'héritier du duc de Bourbon était donc
le duc d'Aumale,
un des enfants de Louis-Philippe. Et c'est le duc d'Aumale qui, alors, beaucoup plus tard, va faire don de cet hôtel de Lacay pour y loger le président de l'Assemblée, en fait.
Exactement. En 1830, le duc d'Aumale hérite du duc de Bourbon, qu'on a retrouvé étranglé à une fenêtre du château de Saint-Leu. Et le duc d'Aumale, qui a des dettes colossales à régler au titre du duc de Bourbon, va vendre l'hôtel de Lacay pour se créer des liquidités. Et il le vend à l'État et pour y installer le président de la Chambre des députés, ce qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui.
Avec des modifications considérables à l'époque où le président en question s'appelle
Morny.
le demi-frère de Napoléon III, qui fait là des transformations assez sidérantes.
Un étage entier, la grande galerie avec les tapisseries.
Et l'hôtel de Lacay aujourd'hui, c'est un hôtel Second Empire.
Oui, c'est très vrai.
Oui. Alors attention, quand on pousse certaines portes au rez-de-chaussée, il y a encore les décors faits pour, dans la deuxième moitié 18e pour le prince de Condé. Il y a des choses assez belles, mais c'est vrai que l'ensemble, même après la grande restauration d'il y a une dizaine d'années, c'est quand même plutôt Napoléon III.
Il faut que, je sais qu'il nous reste peu de temps, mais il faut que vous nous parliez de ce plafond de Calais.
Ah oui, il y a une histoire merveilleuse et on va tous en profiter. Au printemps 2013, le Louvre va ouvrir les nouveaux espaces des arts décoratifs qui sont en cours de travaux. Ça va être somptueux,
oui,
évidemment.
Ça va être extraordinaire. Hein,
extraordinaire. Et il se trouve qu'on va remonter une coupole peinte par le peintre de Louis XVI, Calais.
Qui avait fait son grand portrait de sacre.
Absolument, qui était une petite rotonde, enfin une pièce en rotonde, qui se trouvait dans un petit bâtiment supplémentaire qu'on n'a pas évoqué, qu'on avait rajouté en 1770 dans le jardin. Encore un but de promenade, un petit hôtel supplémentaire. Et donc Calais avait imaginé une sorte de coupole avec des dieux, des ciels, des choses très très belles. Cette coupole a été sauvée au moment où on a détruit le petit pavillon pour agrandir le ministère des Affaires étrangères, mise, elle a voyagé dans le commerce de l'art. Göring s'en empare et la vole pour l'emmener en Allemagne.
Encore une fois. C'était le grand captateur des œuvres d'art.
Absolument. Elle est retrouvée à Berlin par un conservateur du Louvre acharné qui sait que cette coque, elle a été découpée en morceaux, parce que vous imaginez, c'est une grosse coque d'architecture. Eh bien, cet ensemble est en train d'être restauré. Il sera remonté et sera le plafond d'une des nouvelles salles de l'art décoratif de Louvre. C'est une très très belle histoire, je trouve.
Et elle était où, cette coupole, exactement ?
Alors, elle se trouvait dans l'aile sur le jardin vers la Seine de ce petit bâtiment en U qui serait aujourd'hui le long de l'esplanade des Invalides, si vous voulez.
Merci infiniment, Alexandre Gadi. Je rappelle, parmi toutes vos publications, et notamment ce très beau catalogue sur l'expo des hôtels particuliers parisiens, je rappelle votre livre sur Versailles qui vient de sortir, qui présente ce grand album magnifique, la particularité de n'être illustré que de documents d'époque. C'est tout à fait splendide et c'est publié
aux éditions Le Passage.
Au Passage. Et puis, alors, de Jacques Bernaud, cette Mademoiselle de Nantes, fille préférée de Louis XIV, publiée chez Nel aux nouvelles éditions latines. Donc ça, c'est le personnage dont nous venons de parler. Et puis son petit frère, le comte de Toulouse, amiral de France et gouverneur de Bretagne, que vous avez publié chez Lanor. Vous êtes donc un spécialiste des enfants de Louis XIV
Entre autres,
de Madame de Montespan. Merci beaucoup à tous les deux. Nous nous retrouvons évidemment demain, mais cette fois à notre horaire habituel, à 13h15. Il vous reste quelques heures encore pour aller voter. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci Linda.
Et merci à vous surtout. On vous retrouve demain, Franck Ferrand, à partir de 13h sur Europe 1. Dans un instant, il n'y en a pas deux comme elle.